Planétoscope. La Turquie détient un record mondial, celui du nombre de réfugiés syriens. Ils sont près de 4 millions dans le pays. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que les autorités n'en parlent pas. Le sujet est tabou.
Dès le début, les autorités ont tout fait pour que les réfugiés syriens ne soient pas stigmatisés. En tant que chercheur, on s'entend souvent dire « s'il vous plaît, n'écrivez pas trop sur ce sujet, sinon l'opinion turque, qui a déjà une image négative des Syriens, sera d'autant plus encouragée dans cette perspective négative ».
À suivre, le grand format d'un Landlauer. Au Kosovo, il est une espèce en voie d'extinction. Les jeunes diplômés ont presque disparu. Ils sont pour la plupart partis peupler les entreprises d'Europe de l'Ouest, fuyant le chômage. Mais cela pourrait bien changer.
Amazon ne livre pas ici. Google ne soutient pas la langue albanaise. Vous ne pouvez pas devenir YouTuber ici. Vous ne pouvez pas profiter des nouvelles technologies. Les Balkans sont une zone négligée par les acteurs mondiaux de l'Internet, ce qui offre aussi des opportunités de faire des choses, du point de vue du business.
Extrait du grand reportage de Laurent Gélin à écouter dans la seconde partie de Planétoscope. Mais avant toute chose, on prend des nouvelles du monde. Une semaine d'actualité résumée en une minute, c'est le zapping.
La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate.
On se trouve tout de suite Antoine Mariotti, notre correspondant à Jérusalem. Jusqu'où peut aller cette escalade?
C'est toute la question, Judith. Vous savez, il y a eu plusieurs épisodes à peu près similaires depuis un an et demi environ, depuis, je dirais, la reconnaissance américaine de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. On a eu cela à plusieurs reprises, notamment en novembre dernier, où 400 roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien en une journée et demie. C'était la plus forte poussée de fièvre depuis la guerre de 2014. Ce nombre de roquettes a été dépassé.
C'est tout. C'est une faute professionnelle. Peut-être la plus grosse faute professionnelle de l'histoire du Barça. En tout cas, de l'histoire
récente. Mais au Machalé, c'était pareil.
Mais les enfants, c'est l'année dernière, ils ont dit la même chose. Je vais vous parler. Non.
And the pie. And don't be afraid.
En Turquie, les Syriens sont bien visibles, très nombreux dans certaines villes, dans certains quartiers. Et pourtant, officiellement, on ne parle pas de leur présence dans le pays. Les autorités refusent d'en faire une question politique et un objet de débat national. Le sentiment xénophobe lui monte. Ce refus de voir la réalité en face, cette hypocrisie, on la retrouve aussi sur le dossier très sensible du terrorisme. Les tabous de l'AKP, c'est le grand reportage d'Anne Lauer.
Planétoscope. Midi, l'heure du marché à Fatih. Dans ce quartier où vivent de nombreux Syriens d'Istanbul, ce serait mentir de dire que la présence des réfugiés accapare les conversations. Il n'empêche qu'ici, comme partout ailleurs en Turquie, cette présence est jugée indésirable. Le pays accueille plus de 3,6 millions de Syriens, de loin le record mondial, et Berma, une marchande de fruits, ne s'en félicite pas.
C'est la politique du gouvernement que j'apprécie le moins. D'accord, les Syriens ne me nuisent pas, mais vous voyez les conditions économiques de la Turquie. Les Syriens travaillent au noir, alors que nous essayons péniblement de gagner notre vie.
Pas une seule fois dans ses réponses, cette Turque n'évoque le terrorisme, la peur notamment qu'un Syrien lié à Daesh, caché parmi les réfugiés, ne commette un attentat. Cela n'étonne pas Nigar Göksel, directrice locale de l'ONG International Crisis Group, auteur de nombreux rapports sur la perception des Syriens dans la société turque.
Les opinions négatives au sujet des Syriens se focalisent sur des questions de concurrence sur le marché du travail, la criminalité et aussi, dans certaines communautés, la peur que les Syriens nuisent à l'ordre social et aux valeurs locales. C'est surtout dans les villes turques frontalières de la Syrie que les habitants, parce qu'ils ont vu des djihadistes entrer et sortir du pays pendant des années, considèrent davantage les Syriens comme une menace sécuritaire.
Voisine de la Syrie et de l'Irak, la Turquie est en première ligne face aux risques terroristes. Si l'image des réfugiés n'en fait pas les frais outre mesure, c'est peut-être d'abord parce qu'objectivement, malgré leur présence massive et de longue durée, l'immense majorité d'entre eux ne pose aucun problème de sécurité et encore moins de terrorisme. Nigar Göksel.
Ça vient du fait qu'aucune des attaques majeures attribuées à Daesh en Turquie n'ait été perpétrée par un Syrien. Il y a aussi le fait, bien sûr, que la peur liée au djihadisme a diminué, car aucun attentat n'a frappé le pays depuis plus de 2 ans. Entre-temps, tant d'enjeux considérés comme cruciaux ont émergé, tant de tensions politiques, tant d'élections ont accaparé et l'attention des médias et du public.
Autre réalité chiffrée, le nombre impressionnant d'opérations anti-Daesh menées ces dernières années par la police antiterroriste et le fait que, parmi les suspects arrêtés, selon les autorités turques, les Syriens eux-mêmes sont minoritaires. Outkou, un autre commerçant du marché de Fatih, explique qu'il a confiance dans les autorités.
Forcément, quand vous accueillez des millions de personnes, vous prenez le risque de laisser passer quelques terroristes. Mais que pouvons-nous faire, à part être plus vigilants? J'entends parler régulièrement d'opérations antiterroristes. Je pense que l'État fait son travail pour que le pays reste sûr.
Un pays sûr, c'est exactement l'image que souhaite promouvoir le gouvernement turc qui, par ailleurs, ne veut absolument pas qu'un débat national s'instaure sur la présence même des Syriens, constate la chercheuse Nigar Göksel.
Dès le début, les autorités ont tout fait pour que les réfugiés syriens ne soient pas stigmatisés. En tant que chercheur, on s'entend souvent dire « s'il vous plaît, n'écrivez pas trop sur ce sujet, sinon l'opinion turque, qui a déjà une image négative des Syriens, sera d'autant plus encouragée dans cette perspective négative. Si vous accueillez près de 4 millions de Syriens et si les locaux commencent à les regarder un peu trop comme une menace sécuritaire, ça risque en effet de marginaliser encore plus un grand nombre de réfugiés tout à fait innocents. »
Pas de débat, pas de problème. Le gouvernement turc, qui contrôle la quasi-totalité des médias, refuse donc que soient évoqués les risques d'infiltration de membres de Daesh, comme il refuse d'évoquer la présence de citoyens turcs dans les rangs djihadistes et leur possible retour au pays. Résultat, constate encore Nigar Göksel, le sujet fait l'objet de très peu d'articles et d'enquêtes dans la presse du pays.
Le peu d'attention accordée au retour en Turquie des membres de Daesh et aux risques qu'ils posent est surprenant. C'est surtout un sujet abordé avec inquiétude par la presse d'opposition, notamment les médias en ligne un peu plus indépendants. Mais dans les médias grand public, en particulier dans la presse écrite et à la télévision, le sujet est très peu couvert.
C'est aussi dans cette presse d'opposition que les appels à renvoyer les Syriens chez eux sont les plus fréquents. Une demande partagée par près de 9 Turcs sur 10 dans les sondages d'opinion, à l'image de Tolga, un serrurier.
Dès le départ, c'était une erreur. Il ne fallait pas leur ouvrir la porte. Il fallait les rassembler quelque part en Syrie et les empêcher de rentrer. D'accord, humainement, je suis triste pour ces réfugiés et leurs enfants. Mais il faut trouver une solution. Il faut les envoyer dans une zone sécurisée à la frontière.
Ce projet de création d'une zone sécurisée pour y renvoyer les Syriens réfugiés en Turquie, réclamé à corps et à cri par Ankara à ses alliés internationaux, lui a servi à justifier ses interventions militaires de l'autre côté de la frontière, alors que les dirigeants turcs savent pertinemment, même s'ils refusent, là encore, que cela soit dit et débattu, que la plupart de ces Syriens ne repartiront pas. À Istanbul, Indouar pour Mehdi 1.
Et on retrouve immédiatement Anne Andlauer, la journaliste qui a réalisé ce reportage. Bonjour Anne.
Bonjour Mathias, bonjour à tous.
Vous expliquez dans votre reportage que le pouvoir turc est parvenu jusqu'ici à faire en sorte que la présence de millions de Syriens sur son sol ne suscite pas un grand débat national. Pourtant, le président Recep Tayyip Erdogan évoque régulièrement le sujet pour dénoncer ses voisins européens qui n'en feraient pas assez. C'est plutôt paradoxal.
En effet, Recep Tayyip Erdogan aime envoyer au visage des Occidentaux les milliards de dollars que son pays aurait dépensés pour accueillir les réfugiés et accuser les Européens de laisser la Turquie porter seule ce fardeau. Or, quand on sait à quel point la présence des réfugiés est impopulaire, on peut se demander quel est l'intérêt pour le président turc de rendre ces montants publics. C'est un risque qu'il prend car il sait très bien que le discours anti-occidental est une valeur sûre dans la société turque. Ceci dit, beaucoup d'autres paradoxes entourent cette question des réfugiés. Pourquoi les autorités continuent-elles d'affirmer au monde que leur porte est ouverte aux Syriens, alors que ce n'est plus le cas depuis au moins 4 ans et qu'encore une fois, cette politique de porte ouverte est particulièrement impopulaire en Turquie? Pourquoi publie-t-elle chaque semaine le nombre de suspects de Daesh arrêtés dans le pays, rappelant au passage que la menace terroriste est bien réelle? En fait, il faut comprendre que sur ce sujet, la Turquie est un peu coincée entre le message qu'elle veut donner au monde et celui qu'elle veut donner à ses citoyens. Elle est donc constamment obligée de jouer sur les deux images, celle d'un pays généreux mais pas trop, celle d'un pays sûr mais tout de même menacé.
Vous expliquez aussi que la question des revenants, c'est-à-dire le retour au pays de ceux qui ont combattu dans les rangs de Daesh en Syrie, n'est pas vraiment évoquée. Sait-on combien ils sont et quelles menaces représentent ces revenants ?
Alors on le sait d'autant moins que les autorités n'ont jamais été transparentes sur le nombre de citoyens turcs qui ont rejoint les rangs de Daesh. Les services de renseignement sont évidemment très au fait de ce sujet, en témoigne le nombre d'opérations anti-Daesh qui ont lieu chaque semaine pour démanteler des cellules terroristes. Mais lorsqu'il s'agit d'obtenir des chiffres, le pouvoir politique reste muet. Dans ce grand pays musulman, c'est un peu une forme de tabou que d'admettre que des milliers de citoyens turcs ont pu être attirés par un groupe terroriste se revendiquant d'une interprétation aussi dévoyée de l'islam. Et ne parlons même pas de la présence non négligeable de Kurdes de Turquie dans les rangs du groupe État islamique. C'est un tabou dans le tabou quand on sait que les forces kurdes de Syrie sont en première ligne dans la lutte contre Daesh. Bref, pour des journalistes turcs qui s'intéressent au sujet, il est extrêmement difficile d'obtenir des chiffres et d'informer le public correctement.
À la fin du reportage, vous évoquez, Anne, la présence des Syriens en Turquie sur le long terme. Les autorités affirment que tous les réfugiés rentreront chez eux quand la paix sera revenue en Syrie. Mais cela ne sera sans doute pas aussi simple.
En effet, la plupart des chercheurs qui connaissent bien ce sujet et font des études de terrain estiment, au contraire, que la plupart des Syriens réfugiés en Turquie ne rentreront pas chez eux. Pour une raison très simple, beaucoup de ces Syriens vivent sur place depuis de longues années, certains depuis le début de la guerre il y a 8 ans. Ils y ont construit une vie, leurs enfants y sont nés, ils pensent à leur avenir. Et ce n'est jamais simple de repartir de zéro une nouvelle fois, surtout dans un pays ravagé par la guerre. Alors évidemment, la question de leur statut risque de se poser. La Turquie a créé tout un dispositif législatif uniquement pour eux, dispositif qui leur accorde certes un statut juridique avec de nombreux droits, accès gratuit aux soins, à l'éducation, accès au marché du travail, mais un statut temporaire. Que feront les autorités turques lorsque la guerre sera finie? Même si elles exigent le départ de ces réfugiés, comment faire en pratique quand l'immense majorité d'entre eux ne vit pas dans des camps, mais au sein de la population turque? C'est peut-être à ce moment-là qu'aura lieu le grand débat que la Turquie retarde depuis des années.
Merci d'avoir été avec nous. Votre reportage et cette interview sont à réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Qu'en est-il de la situation des réfugiés syriens aujourd'hui? Après 8 ans de guerre civile qui ont fait des millions de déplacés, on fait le point dans le grand décryptage d'Elham Medjahed.
En mars dernier, la guerre syrienne achevait sa 8e année. Un conflit qui a poussé plus de 5,5 millions de personnes à fuir le pays depuis 2011. Des enfants, des femmes et des hommes qui continuent de traverser la frontière. Mathias Reynal et Anne Andlauer nous le disaient il y a quelques minutes. Les autorités turques accueillent le plus grand nombre de Syriens, soit 3,7 millions de personnes. La majorité de ces réfugiés sur le sol turc viennent des régions d'Alep, Idlib, Raqqa, Latakia et Homs. Des personnes en exil qui ont fait le choix de la Turquie parce qu'elle propose un modèle social qui n'est pas celui d'un pays occidental. Un élément important pour les migrants. Le pays constitue également une étape pour ceux qui souhaitent se rendre en Europe. Mais certains réfugiés rêvent tout simplement de rentrer chez eux.
On a tous un rêve. Retourner vivre chez nous en Syrie, même si c'est dans longtemps, on n'est pas si mal ici dans le camp, mais je ne veux pas rester là. Je vais rentrer quand la guerre sera finie.
Un retour qui fait polémique dans un autre pays voisin, le Liban. Ici, près d'un million de Syriens sont accueillis. Certains responsables libanais, notamment le chef de l'État et le chef de la diplomatie, appellent à organiser leur rapatriement vers la Syrie. Pour eux, le pays quasi entièrement reconquis par les forces du régime est désormais sûr. Mais pour d'autres Libanais et le Haut Commissariat pour les réfugiés, il faut d'abord un règlement politique du conflit avant d'assurer ce retour. Pour l'instant, 90 000 réfugiés du Liban sont rentrés en Syrie. Le système de retour est jusqu'ici basé sur la démarche individuelle et volontaire.
Je suis dans le quartier de Bourg Hamoud, un des quartiers de la capitale libanaise, Beyrouth. C'est d'ici que régulièrement partent des réfugiés syriens, candidats au retour volontaire dans leur pays. Les forces de sécurité libanaises les rassemblent ici, vérifient leurs identités avant qu'ils montent dans des bus vers la frontière et vers leur pays d'origine.
On nous a bien traités au Liban, mais nous préférons rentrer au pays parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi.
J'ai quitté Dera en Syrie pour aller à Binj Bey au Liban et maintenant je regarde mon pays et je suis très contente. Cela fait longtemps que je voulais rentrer. Je n'ai jamais voulu partir, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? La situation l'exigeait.
Toujours dans la région, la Jordanie accueille, elle, 650 000 Syriens. 20% d'entre eux vivent actuellement dans les camps d'Azraq et de Zaatari.
Bien que la Jordanie autorise les réfugiés à travailler, la plupart dépendent de l'aide humanitaire. Dans la région, 5,6 millions de réfugiés ont besoin d'un abri, d'argent, d'éducation et de soins. Le commissaire européen à l'aide humanitaire a confirmé l'engagement de l'Europe en tant que premier donateur lors de sa visite du camp samedi.
L'Union européenne et les États membres ont déjà fourni plus de 11 milliards d'assistance depuis le début de la guerre. Et nous allons évidemment continuer aussi longtemps que nécessaire parce que c'est notre devoir moral.
Because this is our moral duty.
246 000 Syriens se sont par ailleurs réfugiés en Irak. En Égypte, le HCR protège plus de 126 000 Syriens. Les responsables de ces pays veulent participer à des pourparlers avec la Russie pour faciliter le retour des réfugiés en territoire syrien. Mais pour l'instant, le HCR assure qu'il n'apporte ni soutien ni assistance à d'éventuelles initiatives qui visent à renvoyer des personnes en Syrie.
Au bout du compte, les gens disent qu'ils voudraient rentrer. Mais du point de vue du HCR, ils doivent rentrer si leur sécurité et leur dignité sont garanties. Des gens ont commencé à rentrer en Syrie, mais beaucoup de personnes vont rester ici. Les besoins vont donc continuer à exister. Nous avons toujours dit que ce n'est pas une solution humanitaire qui est à rechercher, mais bien une solution politique.
À cause de la guerre en Syrie, plus de la moitié de la population a été déplacée à l'extérieur tout comme à l'intérieur du pays. Mais si l'on regarde ce qui s'est passé au cours des 8 dernières années, eh bien, il faudra encore un certain temps avant qu'une solution politique ne soit trouvée pour la Syrie. Pour convaincre la communauté internationale et les ONG, le régime de Damas va devoir avant tout fournir les garanties suffisantes aux exilés syriens pour qu'ils puissent un jour rentrer chez eux en totale sécurité.
Planétoscope. Au Kosovo, les jeunes de 20 ans n'ont jamais connu la guerre. Une génération qui mène un combat sur un tout autre champ de bataille. Sur le terrain économique, pour échapper au chômage de masse et à la pauvreté, beaucoup choisissent de quitter le Kosovo. Mais un secteur pourrait apporter de nouveaux emplois et des perspectives d'avenir. Les nouvelles technologies, le Kosovo n'est pas encore la Silicon Valley des Balkans, mais quand même, il se passe quelque chose. Les geeks de Pristina, c'est le grand format, signé Laurent Gélin.
Au Kosovo, le chômage touche officiellement 45% de la population active et 45% des 2 millions d'habitants du petit pays vivent sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de jeunes prennent donc le chemin de l'exil vers l'Europe occidentale une fois leurs études terminées. Mais depuis quelques années, le secteur des nouvelles technologies connaît un développement remarquable. Mergim Shahani est le fondateur de Girafa, un moteur de recherche en albanais qui propose plusieurs plateformes vendant sur le net toutes sortes de produits.
J'ai vécu 11 ans aux États-Unis. Je suis allé à l'école là-bas. J'ai travaillé pour différentes entreprises. Mais à un moment, j'ai réalisé que je voulais faire davantage. J'ai pensé que je devais laisser ce que j'avais construit aux États-Unis. Et en 2 semaines, j'ai tout vendu. Ma voiture et tout ce que j'avais en fait pour venir fonder cette entreprise. Avec l'idée et l'ambition de construire l'économie Internet de la région.
Depuis les guerres des années 1990, les Balkans ont mauvaise presse, la région est déprimée économiquement et coupée par des frontières qui rebutent les investisseurs et les grandes multinationales. Sans compter que beaucoup d'États ne reconnaissent toujours pas l'indépendance du Kosovo. C'est pourtant cet isolement qui fait aujourd'hui la force des entrepreneurs comme Mergim Shahani.
Amazon doesn't deliver. Google doesn't support Albanian language.
Amazon ne livre pas ici. Google ne soutient pas la langue albanaise. Vous ne pouvez pas devenir YouTuber ici. Vous ne pouvez pas profiter des nouvelles technologies. Les Balkans sont une zone négligée par les acteurs mondiaux de l'Internet, ce qui offre aussi des opportunités de faire des choses du point de vue du business.
Fondée en 2014, Girafa affiche des taux de croissance insolents et vient juste de se lancer dans la production de séries sur le modèle de Netflix. Le tout grâce à une équipe très jeune.
L'âge moyen de notre équipe est autour de 24-25 ans. La moitié de ces gens sont actionnaires de l'entreprise. Ce sont eux qui participent à l'expansion de l'État. Ce sont eux qui participent à son expansion et son chiffre d'affaires double chaque année depuis 4 ans. Vous avez beaucoup de gens intelligents ici. Ils sont capables de tout faire. C'est difficile, mais les jeunes ici ont un ingrédient secret. Ils ont très faim. Et cela fait toute la différence.
La société civile du Kosovo tente aussi de préparer le futur. Chaque année, la fondation Bonnevet organise une grande compétition de construction de robots dans 130 écoles primaires. Et elle accompagne des jeunes qui souhaitent valoriser leurs compétences techniques sur le marché du travail. Lek Zerka est le directeur exécutif de cette organisation non gouvernementale.
Nous avons deux jeunes de 17 ans qui ont fondé leurs propres entreprises grâce aux compétences acquises à Bonnevet. Chaque année, nous avons environ 500 étudiants par centre. Si nous avons 10 centres dans les années à venir, cela nous donnera 5000 individus formés par année, soit 50 000 personnes en 10 ans. C'est une petite armée. Si 1% d'entre eux deviennent des entrepreneurs à succès, cela sera un très bon résultat.
Au sein de la Fondation Bonnevet, la formation aux nouvelles technologies commence presque dès le berceau. Dans les locaux de l'association installée sur les hauteurs de Pristina, dans des immeubles tout juste sortis de terre, une dizaine d'enfants sont en train de bricoler sous l'œil attentif de quelques adultes. Nina a 8 ans, mais elle parle déjà un très bon anglais.
Nous construisons des robots grâce à des plans et ensuite nous les programmons. Nous avons des instructions à suivre et quand nous les suivons, nous avons généralement des points. À la fin de la semaine, nous comptons les points. Ensuite, nous présentons les robots à nos parents.
Depuis 2014, les centres de l'organisation mettent à disposition de tous ceux qui le veulent des espaces de travail où des ordinateurs sont accessibles, mais aussi des imprimantes 3D et des ateliers d'électronique.
L'idée de nos premiers cours ici à Bonnevet, ce n'est pas seulement d'inculquer des valeurs techniques, mais de développer les compétences personnelles des enfants de 5 ans et plus, comme l'empathie, la collaboration, le travail d'équipe. Nous les poussons à s'exprimer, à être créatifs, à critiquer leurs propres décisions, à poser les bonnes questions, mais aussi les mauvaises, car il n'y a pas de mauvaises questions en réalité. Nous essayons de mélanger les classes avec 4 filles et 4 garçons. L'égalité des genres est une partie importante de notre philosophie. Nous construisons les nouvelles générations du Kosovo.
Le chemin sera encore long et semé d'embûches, mais qui sait, le développement des nouvelles technologies permettra peut-être aux nouvelles générations de vivre et de travailler au Kosovo, le pays le plus jeune d'Europe. À Pristina, Laurent Gélin pour Média.
Laurent Gélin avec nous pour parler de son reportage. Bonjour Laurent.
Bonjour.
On l'a vu hein, dans votre sujet Laurent, le Kosovo est tout à la fois l'un des pays les plus jeunes d'Europe, mais aussi l'un des plus pauvres. Les citoyens de ce petit état des Balkans cherchent massivement à s'exiler vers l'Europe de l'Ouest dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Mais certains choisissent aussi de revenir investir au Kosovo. Que représentent pour les jeunes de Pristina des entreprises comme celle que vous évoquez dans votre reportage?
Eh bien, les entreprises de pointe qui investissent et qui recrutent des jeunes qualifiés sont rares. Alors évidemment, le développement d'une société comme Girafa représente un immense espoir pour les jeunes du Kosovo, mais aussi une immense fierté. C'est la preuve pour eux qu'il est possible d'être créatif, ambitieux et de sortir du cercle vicieux du sous-développement et de l'assistanat que les États d'Europe occidentale et les organisations internationales ont assuré depuis l'indépendance du pays en 2008. Vous savez, je pense qu'aucun jeune dans aucun pays du monde ne souhaite s'exiler à l'étranger sous la contrainte. C'est avant tout ce que représentent ces nouvelles sociétés qui se développent au Kosovo, l'espoir de pouvoir vivre normalement, de fonder une famille dans la ville ou la région où l'on est né et d'imaginer son futur chez soi.
Laurent, depuis la fin de la guerre en 1999, Pristina, la capitale du Kosovo, a quand même bien changé.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Avant la guerre, Pristina ne comptait que 200 000 habitants, dont environ 60 000 Serbes. Suite au combat, les Serbes ont fui la ville et beaucoup de gens sont arrivés des campagnes pour s'entasser dans les nouveaux immeubles qui sortent tous les mois de terre, si bien que la capitale du Kosovo compterait aujourd'hui entre 400 000 et 500 000 habitants, ce qui pose bien sûr des problèmes de transport, d'environnement, mais ce qui permet aussi de développer de nouvelles dynamiques, de créer de nouveaux marchés et pourquoi pas de développer de nouvelles entreprises. C'est d'ailleurs dans le quartier tout neuf, planté sur la colline de Dragodan, que sont installés les bureaux de Girafa. Et pour un peu, on se croirait plongé dans l'atmosphère d'une start-up de la Silicon Valley.
La fondation Bonnevet, que vous évoquez dans le reportage, a aussi ouvert des centres dans les villes de province.
Oui, tout à fait. Bonnevet a créé des centres éducatifs à Djakov ou à Kachanik, à proximité de la frontière macédonienne. Et la fondation forme les jeunes de ces villes aux nouvelles technologies, à l'informatique, au travail en équipe, au montage de projets. L'objectif de Bonnevet est dans les prochaines années d'assurer un maillage très étroit du territoire du Kosovo et de former de nouvelles générations d'entrepreneurs qui assureront le futur du pays. Pour beaucoup de jeunes nés après la fin de la guerre, il est primordial de tourner la page des conflits et que la société du Kosovo se réinvente elle-même sans attendre une aide ou un appui de l'étranger.
Merci Laurent, à bientôt.
Au revoir.
Ces dernières semaines, ces derniers mois, Mehdi a suivi pour vous la crise politique au Soudan, des premières manifestations à la chute d'Omar el-Béchir et depuis, le bras de fer entre les contestataires et les militaires. Reportage de nos envoyés spéciaux, analyse, nous nous efforçons de comprendre et de vous faire comprendre la révolte qui secoue actuellement le Soudan. Planétoscope vous propose de partir à la rencontre de ceux qui tentent de ramener la démocratie dans le pays, ces manifestants dont la vie est désormais rythmée par la contestation. Ella Medjahed donne la parole au journaliste de France 24, Bastien Renouy, auteur du long reportage « Soudan, un air de printemps ».
Ce soir-là, Amjad organise un débat dans l'une des tentes érigées au milieu du sit-in.
Comment ça va ? Les gars, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle, de ce qu'il se passe durant les négociations ?
Les visages sont tirés après plusieurs semaines de mobilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais la motivation reste intacte.
La mission première de l'armée est de protéger le pays, pas de le diriger. Les militaires ne devraient être représentés que par une seule personne aux négociations.
L'association des professionnels regroupe des ingénieurs, avocats, journalistes ou médecins qui militent ensemble pour une transition démocratique.
Nous voulons que l'armée réponde à ce que nous avons demandé dans la déclaration pour la liberté et le changement, et nous assurer que le nouveau gouvernement sera complètement civil. La première étape est de transférer le pouvoir à un gouvernement de technocrates. Ensuite, nous commencerons à construire ce pays, brique après brique.
Chaque nuit, ils sont toujours des milliers à tenir le siège du quartier général de l'armée. Il y a quelques mois, il aurait pourtant été inimaginable de marcher ici en exprimant ses opinions. Amjad a été arrêté après une manifestation.
Je sortais de ma voiture, j'entrais dans un bureau quand des membres des forces de l'ordre se sont approchés et m'ont jeté dans leur voiture. J'essayais de comprendre ce qu'il se passait, ils m'ont juste dit qu'ils m'emmenaient avec eux. C'est comme ça qu'ils m'ont arrêté. Nous étions environ 2000 prisonniers et dans les cellules de la prison, nous chantions tous le slogan « Liberté, paix et justice, cette révolution est celle du peuple ».
Loin du tumulte des manifestations, à l'hôpital Royal Care International de Khartoum, Salma opère une patiente.
Nous effectuons une thyroïdectomie à une patiente qui a des grosseurs à la gorge avec des problèmes de pression artérielle.
Après l'opération, la chirurgienne visite ses patients. Ce sont pour bon nombre des manifestants. Son hôpital en a soigné plusieurs centaines au début du mois d'avril, quand les services de sécurité ouvraient le feu sur eux.
Bonjour, comment ça va ?
Celui-ci a été touché à la cuisse alors qu'il parlait à la foule.
Ah, ça s'est infecté ? Il va falloir changer le pansement.
J'ai touché ma jambe et elle était toute ensanglantée. Je me suis effondré et ils m'ont emmené à la clinique sur le lieu des manifs et m'ont apporté les premiers soins. Quand le soleil s'est levé, Ils m'ont transféré ici.
Bonjour Bastien Renouille.
Bonjour.
Alors racontez-nous tout d'abord ce qui vous a marqué lors du tournage de votre reportage au Soudan.
C'est la possibilité en tant que journaliste de travailler librement dans ce pays. J'avais déjà été dans le passé. La liberté de la presse, c'était une notion qui n'existait pas. Et là, on voit qu'il y avait vraiment une réelle volonté de la part de la population d'avoir accès à des médias libres, à des médias étrangers, entre autres. Et l'accueil qui m'a été réservé quand je suis arrivé dans les manifestations pour la première fois a été incroyable. Les Soudanais étaient ravis de voir des médias étrangers pouvoir exercer librement, pouvoir leur poser des questions et qu'ils puissent y répondre. Pour eux, c'était vraiment, vraiment fou. Et pour nous, ben, c'était quelque chose d'assez inattendu.
Alors justement, vous avez donné la parole à trois acteurs de cette révolte au Soudan. Parlez-nous un peu de leur profil.
Ce sont trois personnes différentes. Il y a un étudiant ingénieur, il y a un boulanger, il y a une chirurgienne. Donc trois personnes qui n'ont pas grand-chose en commun a priori, si ce n'est qu'ils en avaient marre du régime d'Omar el-Béchir. Et qu'ils se sont tous les droits investis vraiment pour pouvoir faire changer les choses. Et c'est vraiment ce qui est marquant dans cette révolte qui est actuellement au Soudan, c'est que absolument toute la population est investie, des personnes non éduquées comme ce boulanger, jusqu'aux personnes les plus éduquées qui ont fait de longues études, qui travaillent dans l'administration par exemple, à l'université. Tout le monde est vraiment mobilisé et c'est quelque chose qui est très intéressant et chacun avec ses moyens. L'ingénieur par exemple s'est investi au sein de l'association des professionnels soudanais, c'est une association qui a poussé pour la révolte. Donc lui est plutôt dans le côté administratif de cette révolte et de ce changement de régime. Le boulanger, lui, eh bien, va apporter du pain aux manifestants, va leur permettre de continuer à tenir cette manifestation qui doit durer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 devant le quartier général de l'armée. Tandis que la médecin, elle, eh bien, apporte ses compétences à ceux qui sont blessés, à ceux qui sont fait notamment tirer dessus au début des manifestations. Donc chacun trouve comment apporter sa pierre à l'édifice et chacun participe à sa manière à cette révolte.
Alors on le sait, hein, le président Omar el-Béchir a été destitué. Qu'attendent aujourd'hui les manifestants ? Pourquoi cette révolte continue ?
Alors l'objectif des manifestants, maintenant que le président Omar el-Béchir est tombé, c'est d'avoir la mise en place d'un régime civil, donc c'est vraiment d'accéder à la démocratie. Ce n'était pas forcément leur première revendication. La première revendication, quand ils ont commencé à manifester le 19 décembre dernier, C'était une raison économique. Il y a encore une hausse du prix du pain. C'est devenu insupportable pour eux. Ils ne pouvaient plus se l'offrir. Et donc, eh bien, ils ont décidé de sortir dans la rue et de manifester. Au fur et à mesure de la contestation, leurs demandes ont évolué. Ils ont demandé donc la chute du régime d'Omar el-Béchir qui ne permettait pas d'avoir la vie qu'ils souhaitent avoir. Et puis une fois que ce dernier est tombé, ben ils ont demandé à mettre en place une démocratie, à mettre mettre fin au régime militaire qui dure depuis une trentaine d'années. Et donc maintenant, c'est réellement ce qu'ils veulent. Ils veulent un conseil de transition civile qui permette de créer une réelle démocratie, qui permette de tenir une élection libre d'ici quelques années. Donc les demandes varient un petit peu en fonction des groupes de manifestants, de leurs affiliations politiques, etc. Mais c'est vraiment ce qu'ils souhaitent maintenant, c'est la fin du régime militaire. Pour l'instant, il y a des difficultés pour les manifestants à se faire entendre par l'armée. L'armée qui ne veut pas forcément lâcher le pouvoir, hein, le pouvoir qu'elle tient depuis une trentaine d'années. Et c'est ce qui pose problème en ce moment. De très nombreux manifestants disent eh bien, qu'ils se rendent compte que cela va être très compliqué. Ils perdent un peu espoir, mais ils continuent à rester sur place malgré le ramadan, malgré les chaleurs caniculaires et le jeûne hein, qui rend les manifestations très compliquées. Et ils restent motivés, ils se disent ben, qu'ils ont déjà fait chuter Béchir et qu'ils doivent rester sur place malgré le fait que leur espoir soit assez faible de parvenir au final à un vrai changement de régime complet et à la chute du régime militaire.
Est-ce que les événements en Algérie ont donné peut-être un espoir aux Soudanais ? Est-ce que c'est un sujet de conversation ?
Ce n'est pas un sujet de conversation directement dans les rues. En revanche, quand on leur pose la question, beaucoup disent qu'ils se sont un peu inspirés de ce qui s'est passé en Algérie au milieu du mouvement, en fait. Le mouvement a commencé vraiment, c'était un mouvement interne qui ne s'est pas inspiré de ce qui se passait à l'étranger, donc quand il a commencé au mois de décembre. Et le mouvement s'est un petit peu essoufflé au début de l'année 2019, en janvier, février, il y avait de moins en moins de manifestations. Et quand ces personnes, ces Soudanais, ont vu ce qui se passait en Algérie, ont vu la chute du président Bouteflika, ça leur a peut-être donné un petit peu d'espoir. En effet, ils se sont dit que si en Algérie les choses avaient évolué de cette manière, cela pouvait aussi être le cas au Soudan. Et donc ils ont décidé de continuer à s'investir. Donc je ne sais pas si ce qui s'est passé en Algérie a vraiment impacté les Soudanais, mais toujours est-il que ça leur donnait un petit peu de baume au cœur et peut-être que ça les a motivés, oui, à continuer à descendre dans les rues.
Merci Bastien Renouille.
Merci à vous.
Et je rappelle que votre reportage Soudan, un air de printemps, tourné avec plusieurs confrères, est à voir ou revoir sur France 24.
C'est la fin de votre émission. Merci d'être resté avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, gardez un œil sur le monde.